on m'a invité à présenter un sujet qui n'était pas forcément mon sujet favori au départ, puisqu'on m'a demandé si je pouvais parler de Marie. Et c'était pas mon sujet préféré parce que ça fait partie ce sujet de la place de Marie dans l'Église, dans la foi, etc. Des sujets qui m'ont beaucoup préoccupé quand j'étais adolescent parce que j'ai grandi dans l'Église catholique et que il y avait une insistance, comme vous le savez, extrêmement mariale. Et pourtant, j'ai été aussi enseigné par des prêtres qui m'ont appris à lire la Bible et qui ont fait que je me suis converti, que j'ai cru en Jésus et qui m'ont dit c'est très important de lire la Bible. Donc, j'en suis très reconnaissant de ces prêtres qui m'ont enseigné. Et pourtant, je comprenais pas du coup l'insistance sur Marie et ça fait partie des choses qui m'ont conduit ensuite à d'abord dans mon cœur, et puis ensuite, quand j'ai pu, à changer d'église, parce que je trouvais qu'il y avait une trop grande distance entre ce que la Bible dit d'elle et ce que les catholiques en ont fait par la suite. Naturellement, quand on a ce genre de trajectoire, ensuite, c'est un petit peu compliqué de se dire, bah, tiens, je vais parler de Marie calmement, surtout devant un auditoire qui, en plus, a une certaine hostilité de base, c'est-à-dire que je pense qu'il y a dans les églises protestantes, je dis pas simplement dans les assemblées, je dirais chez les protestants de manière générale, un peu un a priori négatif dès qu'on va parler de ce sujet, parce qu'on se dit, oh là là, attention, c'est glissant, et ça l'est, et on va arriver tout de suite, soit dans la mariolatrie, soit on va pas savoir quoi en dire, et puis du coup, pour être pas catholique, on est pas catholique, du coup on va dire tout ce qui est mauvais dans le culte de Marie, et puis on va passer un petit peu, finalement, au-dessus de ce que la Bible dit réellement d'elle. Et c'est un défi qui donc est devant moi, de pouvoir parler, alors je ne serai pas tout seul, on sera avec Yannick, pour parler de ce sujet, de façon posée, en cherchant ce que les Écritures en disent, et ce qu'on peut tirer, finalement, de l'exemple de Marie. Et vous voyez que présenter Marie comme un exemple, tout de suite, voilà, on va dire, oh là, attention c'est le catholique qui ressort, mais en fait, il y a vraiment un exemple de Marie dans la parole, et c'est notre défi de pouvoir montrer, comme d'autres personnages de la Bible, comme d'autres personnes qu'on rencontre dans les évangiles, ce qu'on peut tirer de positif de son histoire à elle, et d'éviter le défaut qu'on a, c'est-à-dire qu'on va la sortir éventuellement le 25 décembre, et puis le 26, on la remet dans sa boîte, et puis on n'y touche pas pendant un an, parce que c'est un terrain glissant. Là, on va essayer de montrer qu'il y a vraiment des choses à dire sur elle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Luc, l'évangile selon Luc, lui consacre vraiment beaucoup de lui donne beaucoup de place au début de l'évangile. Jean l'a fait apparaître à la fois au début et à la fin du ministère de Jésus. Donc elle a une place qui est assez importante dans les évangiles. Et puis on la voit aussi dans les actes, au tout début, au cœur de l'Église naissante, elle est là, elle est présente. Et puis, sans aller jusque là où les catholiques sont allés, les pères de l'Église ont vu en elle une figure majeure de la foi biblique. Et on peut retenir quand même ça, que chez les premiers chrétiens, il y avait quand même l'idée qu'elle était un exemple. Et par contre, après, bon, mais voilà, il y a eu un moment de grande rupture au moment de la réforme, même si Luther, par exemple, a gardé une certaine dévotion pour Marie, malgré le changement dans la façon de la percevoir, mais il a accepté des concepts qui, pourtant, allaient encore assez loin pour un protestant, on va dire. Et donc le silence qu'on a maintenant, c'est finalement quelque chose d'assez tardif. On parle plus trop de Marie, et c'est peut-être à cause de justement des polémiques que je mentionnais tout à l'heure, parce qu'on insiste trop sur elle comme ce qui nous sépare de Rome. Mais vraiment, mon but, c'est de montrer qu'au contraire, elle a quelque chose à nous apporter. En tout cas, son exemple est un exemple pour nous. Alors, je lirai quelques textes, et puis j'essaierai d'aller assez vite quand même sur les explications, parce que voilà, chaque texte pourrait donner lieu à une étude approfondie, mais j'aimerais en retenir sept étapes dans la Bible pour voir comment on peut éclairer notre foi par celle que Marie a démontrée. Et la première étape, c'est dans l'évangile selon Luc, je lirai quelques versets, donc à partir du verset 26. Et alors, ça irait normalement jusqu'au verset 55, hein, si on veut, ou même 56, pour donner toute cette étape de l'Annonciation. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout en détail. Donc, je commencerai au verset 26, donc Évangile selon Luc, premier chapitre. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. Il rentra chez elle et elle dit, il dit, réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produirait-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Et un peu plus loin... elle dit « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigne d'elle. Ensuite, Marie donc va chez Élisabeth, qui la salue. « Béni sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. » Et puis, il y a ce cantique, je lirai l'hymne de Marie à partir du verset 46. Marie dit « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. » Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étendra de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères. Envers Abraham et sa descendance pour toujours. Et Marie donc reste chez Élisabeth avant de retourner chez elle après 3 mois. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que Marie n'est pas présentée comme une reine, elle n'est pas présentée comme une prêtresse, elle n'est pas une prophétesse même connue, elle n'est pas d'un lieu extrêmement exposé, au contraire, elle vient d'un village qui est méprisé, et puis c'est une adolescente, qui a été promise en mariage, et elle a une vie qui semble toute tracée devant elle, mais qui n'est pas spécialement remarquable au départ. Et là, Dieu bouleverse tout. Et Dieu vient lui annoncer cette naissance miraculeuse, alors qu'elle n'est pas encore mariée. Et donc il vient bouleverser cette trajectoire qui était devant elle, où elle allait se marier avec Joseph. Mais voilà, c'était encore quelque chose à venir et il n'y avait pas forcément pour elle de destin glorieux. Et là, on voit que eh bien, Dieu vient bouleverser ça. Et sa réponse, en particulier donc le dernier passage que j'ai lu, hein, l'hymne qu'elle prononce, qu'on appelle le Magnificat dans l'histoire, parce que c'est le mot latin, le « je magnifie le Seigneur », on voit que Marie, elle ne parle pas d'elle dans ce chant. Elle parle de Dieu et elle vient pour chanter sa puissance, pour chanter la sainteté de Dieu, pour chanter sa fidélité, pour chanter aussi sa miséricorde. Et c'est quelque chose qui résonne beaucoup, certainement dans ceux qui ont entendu ce chant et qui l'ont lu, avec le cantique qui avait été déjà chanté dans le livre de Samuel par Anne, qui vient pour la même manière, qui célèbre un Dieu qui renverse les puissants, qui élève les humbles, qui nourrit les pauvres. Voilà, c'est un vrai beau psaume qui est chanté là. Et finalement, Marie arrive à lier sa propre histoire à la lumière de toute l'histoire d'Israël avec cet écho, avec le cantique d'Anne. Et on voit que ici, finalement, si on se place d'un point de vue, disons, protestant, et qu'on s'attache au sola gratia, eh bien, on en a une illustration ici. Puisque Marie dit qu'elle n'a rien mérité, elle a été choisie, elle reçoit cette promesse qui lui est faite par grâce, elle croit en retour, elle répond à la promesse qui est faite par l'ange, et puis elle est cet exemple parfait d'une foi qui accueille la grâce alors qu'elle ne semble pas mériter, et en tout cas rien ne prédestinait Marie à ce choix, puisqu'elle, encore une fois, elle n'était pas spécialement remarquée avant que l'ange ne la visite. Certainement, c'était une femme très pieuse, puisque on n'imagine pas l'ange de Dieu, ou en tout cas Dieu envoyer son ange choisir quelqu'un qui n'était pas attentif à sa parole. Donc, je pense qu'elle avait une vie pieuse auparavant, mais elle était bien jeune et il n'y avait pas grand-chose encore pour la prédestiner à un destin tel qu'elle l'a eu. Et c'est la grâce de Dieu de choisir cette femme et que cette femme réponde à cette promesse. Et Marie, elle ne dit jamais « regardez-moi », elle ne dit jamais « voilà, j'ai été choisie ». Non, elle dit « regardez au Seigneur, mon âme exalte le Seigneur ». C'est vraiment dans ce sens-là que le Magnificat, finalement, est aussi là un chant qui est christocentrique dès le départ. Parce que c'est bien l'expression de la façon dont Dieu va répondre aux besoins du monde. Et Marie, on l'a lu, elle dit aussi « je suis la servante du Seigneur ». Et quand elle utilise ce mot, hein, c'est le mot « je suis l'esclave du Seigneur », on pourrait traduire, c'est le mot « doulé » en grec. Et c'est un mot qui est très fort, parce que finalement, ce qu'elle veut dire là, c'est que sa vie déjà ne lui appartient plus. Et cette vie, elle va appartenir au Seigneur. Et c'est quelque chose qui peut nous pointer aussi vers d'autres femmes de l'Ancien Testament. Alors, j'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on peut penser à d'autres femmes qui ont eu aussi un rôle à jouer dans le destin d'Israël. Je pensais en Exode 1 à Poua et Siphra, c'était des sages-femmes qui désobéissent pour sauver des vies déjà à l'époque. Déborah, la seule femme parmi les juges d'Israël qui elle aussi aura un destin extraordinaire pour faire avancer la cause du peuple. Il y a aussi Yaël qui tue le général Sisera, ou Esther, qui est aussi une esclave, qui finalement devient reine. Voilà, il y a toutes ces femmes qui ont eu des destins extraordinaires dans l'Ancien Testament, et comme elle, Marie, là, cette femme d'extraction humble, eh bien finalement devient un agent coopératif de Dieu pour libérer son peuple. Et donc elle vient dans cette lignée de femmes qui ont eu un rôle à jouer pour la libération du peuple. Et toutes ont été choisies pour participer à la délivrance du peuple de Dieu, et donc Marie est voilà, dans la suite de ces femmes fidèles d'Israël. Et je pense que ça nous invite à prendre ça comme exemple, et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous aussi, nous sommes disponibles, comme Marie a montré qu'elle l'était, est-ce que nous sommes disponibles quelles que soient les circonstances, et certainement, elle n'avait pas envisagé le projet qui lui est présenté par l'ange à ce moment-là. Ou est-ce que nous, on est disponible seulement quand le projet de Dieu correspond à notre projet? Et là, on voit qu'il y a certainement une différence avec la foi que montre Marie, qui se laisse bousculer et qui voit sa vie complètement réorientée et qui dit « je suis l'esclave du Seigneur ». Alors, voilà, c'est un premier élément. Et pour être un peu taquin, j'oserais demander si ces quelques versets qu'on a lus nous permettent de dire que Marie est la nouvelle Ève, comme on l'entend parfois chez les catholiques. Alors c'est quelque chose qui date du IIe siècle, hein. C'est un des pères de l'Église, Justin Martyr, qui a commencé à utiliser cette notion pour présenter Marie comme la nouvelle Ève. Et je pense qu'on peut le comprendre en effet comme un renversement positif du rôle qu'Ève a eu. Parce que là où Ève a écouté celui qui était un ange déchu et a apporté la désobéissance, Marie, on voit, écoute l'ange Gabriel et répond par l'obéissance. Et puis quand elle dit voilà, « qu'il me soit fait selon ta parole », eh bien finalement, elle accepte la destinée de cette femme qui est prophétisée dans la Genèse et qui dont on sait que la descendance écrasera la tête du serpent, eh bien, quelque part, c'est bien ce qui va arriver à Marie, puisqu'elle va être la mère de Jésus, qui va écraser effectivement la tête du serpent. Et là où Ève était la mère des vivants selon la chair, eh bien, Marie va porter celui qui dit « Je suis la vie », et donc il va, voilà, elle va accueillir en son sein celui qui est le Verbe, celui qui est la vie, et elle va finalement un peu contrer l'acceptation malheureuse d'Ève par une acceptation qui, là, pour le coup, est bien heureuse pour le destin de l'humanité. Et donc, même si on ne reprend pas littéralement l'expression de Nouvelle Ève à notre compte, on peut voir que finalement, ce point de vue n'est pas complètement dénué de sens quand on le lit à la lumière de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et ensuite, il y a dans l'évangile selon Luc toujours un deuxième point sur la naissance. La naissance cet enfant, début du chapitre 2. Et alors, je sais pas si j'ai le temps de tout lire, mais on va peut-être. Simplement se souvenir que Marie, je vais juste lire le début. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, s'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Un récit qui est finalement assez condensé, qui est très sobre sur la naissance du Sauveur, et on voit que ça se passe dans l'intimité. Là encore, on voit que tout ceci, que ce soit la visite de l'ange ou là la naissance, tout ça se passe dans un cadre qui est très restreint. Et c'est dans cette intimité de l'étable que le cadeau extraordinaire de Dieu va être accueilli par Marie et puis par Joseph qui est à ses côtés. Et Luc nous a dit hein, dans l'évangile, quand on lit un peu plus longuement les paroles qui sont données aussi autour de la naissance du Sauveur et tout ce que les bergers vont dire, tout ce que l'ange va dire aux bergers, et ensuite les bergers vont dire en la présence de Marie, on voit que Marie médite toutes ces choses dans son cœur. Et il y a certainement dans le cœur de Marie à ce moment-là une plénitude et une cohérence de tout ce qui s'est passé. Et elle va vivre toutes ces choses dans voilà, la méditation et dans la présence du Seigneur, en comprenant que finalement, c'est bien ce que la promesse qui est en train de s'accomplir. Et Marie va vivre ça un peu seule, mais aussi avec cette certitude qu'elle est bien en train d'accomplir la promesse qui lui avait été faite. Alors, peut-être un autre terme qui est un petit peu tendancieux, qui est utilisé par les catholiques pour parler de Marie, et j'en parlerai là parce qu'on parle de la naissance de Jésus. Ils disent parfois que Marie est mère de Dieu. Et alors c'est sûr qu'en tant que protestant, ça nous fait un peu chauffer les oreilles. Hein. On se dit, mère de Dieu, c'est problématique. Alors, en effet, on peut le voir comme ça, c'est problématique, mais en recherchant un petit peu l'origine de cette expression, c'est une notion, là encore, qui est très ancienne, hein, qui a été introduite par les pères de l'Église au 5e siècle, au Concile d'Éphèse. Et à l'époque, ce qui se jouait n'était pas tellement la figure de Marie, mais bien la nature et de Jésus-Christ lui-même. Et on parle de cette notion, alors en grec, c'est la Théotokos, donc la mère de Dieu. Et à l'époque où il fallait définir si Marie, oui ou non, pouvait être définie comme mère de Dieu, ce n'était pas tellement son statut à elle, mais bien la divinité de Jésus qui était en jeu. Parce que, y en a qui, à l'époque, des théologiens, qui auraient voulu séparer la nature humaine de Jésus et la nature divine, et dire que Jésus n'a pas été entièrement Dieu et entièrement homme tout au long de sa vie. Et ils essayaient, voilà, de séparer les deux. Et donc, en disant que Marie est mère de Dieu, finalement, c'était affirmer que l'enfant qui était né d'elle était pleinement Dieu. Et refuser ce titre, à l'époque, c'était aussi risquer de diminuer le statut de Jésus comme pleinement Dieu dès l'origine. Donc, on voit bien que, finalement, l'expression, au départ, n'était pas à propos de Marie, mais bien à propos de son enfant. Et donc, c'est un titre, si on l'utilise, qu'on peut voir comme christologique, là aussi. Parce qu'on affirme quelque chose sur Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu. Et on voit bien que Jésus, plus tard, est bien confirmé comme né d'une femme, hein, dans l'Épître aux Galates. Donc, c'est quelque chose qui ne posait pas de problème à l'apôtre Paul, qui posait pas de problème aux premiers chrétiens. Et il a fallu que l'Église l'affirme comme un dogme, parce qu'il fallait défendre cette double nature de Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu. Donc, je crois que voilà, on fait bien peut-être de ne pas faire de raccourcis sur cette notion, mais si on l'entend, on peut aussi le défendre, comme les pères de l'Église l'avaient défendu, en voyant que c'est pas tellement de Marie dont il s'agit, mais surtout, comme elle le dit elle-même, hein, de Jésus-Christ qu'il s'agit. Alors ensuite, si on continue à lire chapitre 2, il y a un troisième moment qui me semble important dans la vie de Marie, c'est cet incident autour de ce qui se passe au temple. Donc on va lire à partir du verset 41. Donc Jésus, à ce moment-là, a 12 ans. Et vous rappelez l'épisode, hein, ils vont au temple tous ensemble, et comme ils en ont l'habitude. Mais là, Jésus échappe à ses parents. Donc lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume, donc à Jérusalem. Puis quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leurs connaissances. On voit déjà qu'ils sont assez détendus, hein, et puis qu'ils ont confiance dans les gens qui sont autour d'eux. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours quand même, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Finalement, pas si détendu. Et il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Alors là, finalement, on voit que Marie, qui avait pleinement confiance avant et qui méditait ces choses et qui voyait toute la cohérence entre l'annonce, la naissance, là, il y a quelque chose qui est un petit peu discordant. Et il y a une notion un peu d'inquiétude qui s'introduit dans sa relation avec Jésus. Et on voit que là, elle doit lutter, non pas avec un souvenir qui serait joyeux, mais avec un événement qui, finalement, est un peu contraire avec cette plénitude qui l'a caractérisée jusque-là. Le plan divin, finalement, dépasse un peu ce qu'elle avait imaginé. Et il y a une sorte d'incohérence, de dissension dans peut-être cognitive entre ce qu'elle a reçu et puis, finalement, la façon dont ça se passe. Une tension intérieure, mais peut-être aussi une tension intérieure qui est le signe d'une foi qui va mûrir. C'est-à-dire qu'elle a reçu cette promesse, il y a son enfant qui était petit, et puis cet enfant, il devient adolescent, et il commence à faire des choses qui vont dans le sens où, du destin qui est devant lui. Jésus a aussi sa propre œuvre à accomplir, et ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et la foi de Marie, qui était une foi dans celui qui lui a été révélé par l'ange aussi, eh bien là, elle doit aussi évoluer, et se transformer aussi dans la foi envers celui qui finalement elle avait enfanté quelque temps auparavant. Et elle expérimente ici le fait que la promesse divine, elle peut être aussi source de tension, peut-être source de souffrance quelque part, dans la façon dont les choses se produisent. Et c'est pas parce que... C'est pas parce qu'elle apporte, c'est pas parce que elle croit moins, pas parce qu'elle ne comprend plus, mais parce que parfois on comprend les choses aussi parce qu'elles nous font ressentir dans notre corps, dans notre chair, et là finalement il y a cette angoisse qui permet peut-être à Marie aussi d'évoluer dans la façon dont elle perçoit Jésus et la façon dont elle perçoit Dieu. Et il y a un pourquoi qui se pose là. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et c'est quelque chose d'assez douloureux, j'imagine. Et elle a certainement l'espoir d'avoir une réponse dans ce pourquoi, ce qui montre qu'elle a une certaine, voilà, elle a cette foi, mais la réponse ne viendra pas immédiatement. Et donc, peut-être une chose à retenir sur cet épisode, j'essaie de raccourcir en fait, mais une chose à retenir sur cet épisode, c'est que la sensibilité que donne la foi aux douleurs est quelque chose à garder, et que finalement, il y a des moments où on peut souffrir, même en tant que croyant, on le sait, et que cette souffrance-là nous permet peut-être de comprendre quelque chose comme Marie a compris quelque chose. Et puis, aussi l'idée que la vision que nous construisons de l'œuvre de Dieu, c'était la vision que Marie s'était faite peut-être de la façon dont les choses allaient se dérouler, puisqu'elle avait reçu une promesse, mais voilà, elle n'a pas forcément d'idée tout de suite de comment les choses allaient se passer. Elle s'est peut-être construit une image mentale de la façon dont Jésus allait être en relation avec eux, de la façon dont les choses allaient se passer pour elle et pour eux. Et bien finalement, cette vision-là doit rester soumise à l'acceptation que seul Dieu sait de quoi sera faite notre vie, et seul Dieu sait comment il va conduire toute chose à bonne fin. C'est les promesses qu'on reçoit, mais on voit que ça peut passer aussi par des événements qui sont imprévus et qui nous mettent quelque part dans l'angoisse, comme Marie l'a été. Donc voilà, un moment un peu particulier de sa vie, et certainement un basculement aussi dans la façon dont elle envisage la suite de sa relation avec Jésus et avec Dieu. Et puis alors j'avance hein, sur un autre épisode qu'on connaît un peu mieux peut-être, parce qu'on en parle assez régulièrement, les noces de Cana. Et il est connu parce que c'est un des premiers miracles qui est raconté à propos de Jésus, le premier dans l'évangile selon Jean. Donc c'est Évangile selon Jean chapitre 2, et je lirai les 12 premiers versets. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: « Non, pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent à ras-bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié, et il lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Un épisode qui est remarquable, hein, qu'on étudie souvent du point de vue de Jésus. Et c'est vrai que c'est son premier miracle, il est important pour ça. Mais il y a un dialogue qui est surprenant entre Jésus et Marie, et qui est surprenant, qui est quelque part déroutant aussi, la façon dont il s'adresse à elle et ce qu'il va lui dire. Ce qu'on voit, c'est que déjà, le maître de cérémonie qui est là ne maîtrise pas grand-chose. Il ne voit pas trop ce qui se passe dans sa cérémonie. Ce n'est pas un très bon intendant. Hein. Je vais prendre la graine pour mon camp. Mais il ne sait pas ce qu'il a. Il ne sait pas, il sait pas les ressources qu'il a. Donc lui, donc il ne maîtrise pas. Et puis, finalement, ce sont ses serviteurs qui commencent à prendre des initiatives qui, finalement, ne leur reviennent pas. D'où ça sort que les serviteurs commencent à décider voilà, le vin qu'on va mettre, etc., d'aller trouver les gens pour trouver des solutions. Et on a des centaines de litres de vin qui, finalement, sont produits pour une petite noce de village, ce qui semble aussi démesuré. Et puis, on voit Marie qui est là au milieu, dans cet épisode qui est assez incongru, et d'autorité, elle va imposer une référence à son fils. Et lui, pour l'instant, on ne le connaissait pas trop. Jésus, c'était le fils du charpentier. C'est comme ça qu'il était connu, puisque pour l'instant, c'est comme ça qu'il avait grandi. Et Marie veut dire, ben voilà, il faut aller le voir, il a une solution. Donc, des détails qui sont assez curieux. Et puis il y a ce dialogue. Alors simplement, je ferai remarquer que le mot femme ici, qui est employé par Jésus, ça nous semble à notre lecture d'aujourd'hui un petit peu irrévérencieux, un peu déplacé. On se dit mais comment il ose parler à sa mère? C'est un peu bizarre. Et peut-être que Jésus, à ce moment-là, il nous apparaît un petit peu troublé de devoir agir. Alors que lui, il estime que son heure n'est pas encore venue. Et c'est ce qu'il répond. Mais Marie, en fait, ici, peut-être n'agit plus simplement comme une maman. Elle est celle qui a donné naissance au Sauveur, elle le sait. Et la femme dont on parle ici, c'est peut-être encore une fois une référence à la Genèse. Et ce que je disais tout à l'heure, la référence à celle dont le fils brisera le talon du malin, la tête du malin avec son talon. Et peut-être qu'ici, ce qui est en train de s'affirmer, c'est que Jésus est en train, en effet, de prendre la mesure et de révéler cette puissance qui domine tout, et de prendre, finalement, d'accueillir et d'incarner ce rôle qui est le sien, d'être le sauveur. Et donc, il fait peut-être référence à Marie comme cette femme pour montrer que, voilà, chacun est bien dans son rôle et que lui adopte le sien de sauveur. Et la deuxième remarque, c'est sur la façon dont Marie répond, ou enfin en tout cas rebondit suite à ça. Elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et finalement, cette parole, on peut comprendre qu'elle s'applique à ce moment-là, dans les noces, mais peut-être qu'elle s'applique aussi au-delà de ce moment précis des noces de Cana. Peut-être que elle définit ce qui est important, c'est-à-dire d'avoir foi en Jésus-Christ. Et pour les générations qui suivront, pour d'autres moments que ces noces de Cana, et jusqu'à nous, ces paroles, elles sont importantes. Finalement, ce qui est important, c'est de faire tout ce qu'il nous dira. Il faut écouter, mettre en pratique la parole de Dieu avec foi et sans douter. On l'a lu il n'y a pas longtemps dans l'épître de Jacques. Eh bien, peut-être que c'est ça aussi que Marie nous dit ici. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle ouvre la voie, finalement, peut-être, de ce qui deviendra la foi chrétienne. Et donc, on peut retenir ici, de cet épisode, que c'est important pour notre propre foi, c'est un encouragement à développer notre foi, reconnaître celui qui est ici déjà en germe et qui commence à son ministère de sauveur, de seigneur, et qui vient apporter un message d'espérance pour l'humanité. Il vient accomplir la promesse que Marie avait reçue. Et là, ça y est, il est en train de montrer qui il est réellement. L'affirmation qu'il est tout-puissant et au-dessus de toute circonstance. Voilà pour cet épisode, et j'avance sur un autre épisode dans l'évangile selon Marc cette fois. Et je proposais de lire au chapitre 3 quelques versets sur les tensions à l'intérieur de la famille de Marie. Et alors, juste un verset donc au chapitre 3, verset 21, déjà. Donc Jésus revient à la maison, la foule se rassemble encore, il ne pouvait pas même manger. Donc on voit cette foule qui est oppressante, qui dérange. Donc évangile selon Marc, chapitre 3, verset 21. Et à cette nouvelle, les gens de sa parenté, donc ces gens de sa famille, hein, sortirent pour se saisir de lui, de Jésus, car elle disait, il a perdu la raison. Voilà peut-être un épisode de un peu difficile dans sa famille, et la façon dont Jésus répond à partir du verset 31, sa mère et ses frères arrivent, ils se tiennent dehors, Et puis ils font appeler Jésus, et là, la foule était assise autour de lui. On lui dit, ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Et Jésus répond, ma mère et mes frères, qui est-ce? Puis promenant ses regards sur eux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Ça, c'est un épisode je l'ai lu dans l'évangile selon Marc, mais on le retrouve ailleurs, hein, dans l'évangile selon Matthieu, mais aussi dans l'évangile selon Luc. Mais ici, je trouve que la transcription qui est faite dans Marc est assez particulière, parce qu'elle égratigne considérablement l'image de la confiance qu'accordait sa famille à Jésus, au moins jusqu'à ce stade de son ministère. Là, on voit qu'il commence à y avoir des tensions assez fortes, à tel point qu'il y a même des gens de sa famille qui disent « mais il déraille, quoi, en quelque sorte, il a perdu la raison ». Vous vous rendez compte de dire ça? Quelque part, ils disent qu'il est fou. Et on sait là aussi ce que dit Jésus à propos de ses critiques quand on dit que quelqu'un est fou. Enfin, c'est un mot qui est très fort. Et donc on voit que ici il y a sa parenté, mais Marie est aussi comprise dans le lot. Et alors on voit que dans les autres évangiles, il y a une distinction entre la famille de Jésus et le comportement des autres sceptiques qui sont autour de Jésus. Parce que il n'y a pas le même témoignage, hein, autour de ces événements, mais ici on voit bien que la famille est quelque part associée à toutes les autres personnes qui doutent. Et Jésus finit par définir une nouvelle famille. Et il parle de la famille de la foi ici. Et Marie, qui est présente, doit accepter que l'amour du Christ n'est pas réservé à l'intimité. On a vu que les premiers épisodes se passaient dans l'intimité. Et bien ici, on sort de l'intimité. On sort d'un cadre familial restreint, mais on voit que l'amour du Christ, ici, il est universel. Et finalement, ça doit être un peu dur pour une mère de comprendre que l'amour de son fils, il ne sera plus exclusif. Et que ce qui s'était passé dans son sein, ce qui s'était passé en elle, ce qui s'était passé dans l'intimité de la mangeoire, eh bien ici, ça sort et ça concerne l'humanité tout entière. Et ce qu'il faut peut-être pour elle comprendre, et ce qu'on est invité à comprendre, c'est que Jésus-Christ, il est le sauveur de tous. Et il est aussi le sauveur de mon prochain, il est aussi le sauveur de mon voisin, et pas seulement mon petit Jésus à moi. La foi, elle n'a pas vocation à être vécue dans l'intériorité seulement. Alors, on sait bien que c'est important, on dit qu'il faut s'approprier la foi, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas l'intériorité, attention. Je dis bien que l'intériorité est importante, mais... La foi, elle se partage, elle se multiplie, elle se partage avec bonheur. C'est-à-dire que ce que Dieu va donner à mon frère, à ma sœur, ne me retire absolument rien de ce que Dieu me donne. Et il y a toutes ces histoires de jalousie dans la Bible, hein, toutes ces histoires d'hommes qui avaient, vous savez, un homme avait deux fils, etc. Il y a souvent ces histoires de jalousie et de se dire, mais finalement, si Dieu va donner à l'autre, tout ce qu'il va lui donner à lui, il ne va pas me le donner à moi. Mais non, ça n'a pas sa place. Ce que Dieu va donner à l'autre, finalement, ça augmente encore ce que Dieu peut me donner, la joie que je peux avoir, à voir à quel point Dieu a béni mon frère ou ma sœur, et ça nous encourage à le louer encore plus, y compris pour les dons qu'il fait aux autres. Et peut-être que là, Marie doit le comprendre aussi, à ce moment-là, comme nous le comprenons, il y a des bénédictions pour moi, comme il y en a pour les autres, et réjouissons-nous aussi des bénédictions qui sont données aux autres. Et n'allons pas à l'encontre de l'œuvre de Dieu, vous savez, comme Jonas, qui est triste parce que Dieu décide de sauver Ninive, et ça le fait se morfondre, il est là sous son arbre, et vraiment il est en colère parce qu'il sait que Dieu, son projet, c'est de sauver ces gens qui n'ont pas mérité. Mais ça, c'est lui qui le pense. Et Dieu a ses plans, et si Dieu a décidé de sauver, eh bien, alléluia! C'est quelque chose dont on se réjouit avec nos frères et sœurs, Et ça se multiplie, et c'est tant mieux. Et donc, même si moi, je considère que les autres ne méritent pas, eh bien, c'est à moi de me remettre en question, parce que la foi des autres, normalement, est un encouragement, et les bénédictions des autres sont aussi un encouragement à nous réjouir de ce que Dieu a cette grâce généreuse. Et j'ajouterai un sixième épisode, l'avant-dernier, brièvement, dans l'Évangile selon Jean, sur ce qui se passe à la fin de la vie de Jésus. Et un thème qui revient beaucoup dans la peinture notamment. Je pense que ça fait réfléchir beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, cet épisode de la croix et quand on voit Marie au pied de la croix. Donc dans le chapitre 19 de l'évangile selon Jean, à partir du verset 25, juste deux versets, auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors là, voilà, ce fils qu'elle a enfanté, trentaine d'années auparavant, ce fils qui est aussi un roi qu'on attendait, le Messie, eh bien finalement il arrive, il est crucifié. Et Marie est là, et ce tableau est très sobre, et je pense que cette sobriété est ce qui a poussé beaucoup à réfléchir à cet épisode de la Mater Dolorosa, hein, cette mère qui est souffrante aussi devant la souffrance de son fils. Elle voit cet enfant qui a eu un destin qui lui a échappé, et qui a échappé à Marie, hein, je veux dire, et qui finit sur la croix. Et pas plus que les disciples, elle ne comprend certainement ce qui est en train de se jouer précisément à ce moment-là. Et c'est saisissant de voir ce tableau. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de réflexions, beaucoup de peintures pour exprimer ce moment-là, à la fois parce qu'il y a le moment de la croix, mais aussi l'incompréhension et la quelque part une douleur humaine des disciples, mais aussi en particulier de Marie qui avait enfanté cet enfant. Et là, elle reconnaît le Sauveur, et elle le reconnaît qui meurt à notre place, et elle reçoit une mission. Elle reçoit une mission, puisqu'on lui dit, voilà, femme, voici ton fils. Et elle doit veiller, quelque part, sur un des disciples, et certains diraient, elle veille aussi sur une communauté naissante, communauté des croyants. Et c'est vrai que quand on recroise Marie au début des actes, on voit qu'elle a pris ce rôle aussi d'accompagner la communauté naissante des croyants, ceux qui ont cru, hein, qui étaient quelque part déboussolés par ce qui était en train de se passer. Et je pense que on peut tirer de cet épisode deux enseignements, savoir reconnaître à la fois dans le respect, l'adoration comme Marie, la souffrance de Jésus-Christ qui est mort à notre place, et se tenir au pied de la croix comme elle l'a été et comme d'autres l'ont été à ce moment-là. Et donc encore une fois, avoir les regards tournés vers Jésus. Et puis, savoir témoigner de la foi que l'on a donnée à cette œuvre, comme finalement elle est encouragée, elle, à le faire, à accueillir les disciples et à continuer à entretenir ce lien après la croix. Eh bien, nous aussi, nous recevons cette mission de continuer à témoigner de la foi que l'on a dans l'œuvre de Jésus-Christ et à encourager ceux qui ont cru, comme Marie voilà, a pris. Jean avec elle, eh bien, nous aussi, nous sommes encouragés à accueillir et à encourager ceux qui sont des croyants comme nous et à les encourager dans la foi. Finalement, c'est une mission qui dépasse celle de Marie, mais qui peut aussi s'appliquer à nous. Et puis donc le dernier épisode, suite à ça, on la voit, Marie, avec l'Église, au début des Actes. Il y a juste un verset. Où on voit que donc c'est premier chapitre verset 14 donc tous les disciples d'un commun accord étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Voilà, donc il y a juste cette mention où il y a des personnes en prière et parmi ces personnes, il y a la famille et notamment Marie. Donc ceux qui on l'a vu étaient il y avait une relation compliquée qui s'était instaurée Eh bien, on voit que finalement, il y a des frères de Jésus qui sont là et que Marie est bien présente. Et c'est la dernière mention qu'on aura de Marie dans la parole. Et on la voit en prière avec les disciples, juste avant la Pentecôte. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a peu d'autres mentions par la suite? Pourquoi on ne sait pas par la suite ce qui est arrivé à Marie? Eh bien, simplement, retenons que Dieu a donné ce qui était essentiel dans sa parole. Il a donné Voilà, l'alpha et l'oméga, il a donné l'essentiel. Et ce qui est dit de Marie à ce moment-là suffit à nous faire profiter de son témoignage. Et l'encouragement qui nous est donné, il est simple, il est sans discours inutile. On voit que c'est juste une mention en passant. Mais c'est que voilà, Marie prie. Et avec elle, il y a l'Église des premiers jours qui est là et qui prie. Et la conviction, c'est que l'œuvre du Christ continue et qu'elle est, elle est ancrée, elle est bien présente, cette conviction que l'œuvre du Christ n'est pas terminée à la croix, mais qu'elle continue encore aujourd'hui, et que la réalité de la résurrection est bien, voilà, est vécue par les disciples comme elle a été vécue par Marie en particulier. Et donc, on peut retenir que finalement, la vie de foi ici, et si on prend Marie comme exemple de foi, c'est de participer à la communauté des croyants. Elle est présente avec les disciples, elle prie avec eux. Elle apporte certainement un témoignage, une expérience qui est la sienne propre, comme d'autres pourront apporter la leur. Et la vie de foi, comme celle de Marie, ça a été de croire que Dieu mènera son projet à bonne fin et qu'il réunira tous ses enfants dans la résurrection éternelle. C'est certainement ça que les disciples avaient à cœur à ce moment-là et que Marie avait à cœur. Et donc, finalement, la prendre comme modèle, c'est aussi avoir cette prière-là dans nos rassemblements encore aujourd'hui. Et donc, on voit que ensuite, il n'y a pas d'autres mentions. Marie n'est pas présentée autrement que ça. Donc, ce n'est pas une divinité à prier. Ce n'est pas même celle qui va intercéder pour nous aujourd'hui, comme les catholiques le prétendent. Mais par contre, elle est un modèle à suivre. C'est un modèle pour nous, c'est un modèle pour l'Église. Comme l'Église reçoit la parole, hein, et puis comme l'Église porte cette parole hein, qu'elle a reçue, comme elle va la donner au monde, elle nous montre que finalement, la grâce de Dieu qui a été donnée au début de sa vie, eh bien, cette grâce, elle nous a été donnée aussi à nous, et elle peut transformer une vie humaine qui était, je l'ai dit tout à l'heure, un peu ordinaire, on va dire, rien de spécial chez Marie au départ. Eh bien, cette grâce va transformer aussi nos vies en un instrument de salut, comme Marie a été finalement cet instrument de salut. Et on peut retenir peut-être que Marie est un autre personnage qu'on peut ajouter dans cette grande nuée de témoins qui nous entoure pour que nous gardions comme elle les regards fixés vers celui qui est au centre, Jésus-Christ.